simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues, Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole.
Une émission sur la lutte du peuple palestinien. Et cela à travers la diffusion d'une partie des prises de parole qui ont pu se réaliser lors du rassemblement qui avait lieu jeudi dernier à Stalingrad, organisé par Urgence Palestine. Puis, dans une deuxième partie d'émission, nous vous diffuserons la conférence de Pierre Stamboul à Résistance pour la présentation du livre « Du projet sioniste au génocide ».
Et vive la lutte du peuple palestinien ! Et vive la lutte !
Paris, place de Stalingrad, est-ce que vous êtes là? J'aimerais que vous fassiez un accueil pour notre frère Rami Shaef, prisonnier politique palestinien détenu dans les geôles du régime criminel de Sisi. Et Rami, il a quelques mots à nous dire. L'ennemi israélien qui prétendait mettre la main sur les prisonniers détenus par la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, l'ennemi israélien qui prétendait tout obtenir par la force, a échoué. Et aujourd'hui, il négocie avec la résistance pour un échange de prisonniers. Et l'ennemi israélien qui prétendait que la reconstruction le jour d'après à Gaza se ferait avec des personnalités choisies, avec des collaborateurs et des traîtres, aujourd'hui, l'ennemi, l'occupant, le colon, est obligé de négocier directement avec les représentants de la résistance palestinienne. Et l'ennemi qui voulait vider la bande de Gaza de sa population se retrouve aujourd'hui avec un peuple tout entier qui dit « Nous resterons sur notre terre ». L'ennemi a réussi sur un seul point. Il a montré au monde entier la réelle nature de ce régime criminel, assassin, un sionisme génocidaire et barbares, nazis. Notre bataille n'est pas finie. La prochaine étape, c'est le fait d'assurer que les forces israéliennes quittent toute la bande de Gaza. La deuxième étape de cette bataille, ça va être de mettre fin au blocus de la bande de Gaza et d'assurer qu'on puisse la reconstruire plus belle et plus forte qu'elle n'a jamais été. Et il y a une bataille qui est notre bataille à toutes et tous, ensemble. C'est la bataille contre l'impunité. C'est la bataille pour faire payer le prix à tous les génocidaires et leurs complices qui ont fourni les armes, qui ont fourni les soldats, qui ont fourni le soutien politique, diplomatique et médiatique de ce génocide. Et notre promesse, notre serment, c'est que nous allons continuer et que nous ne laisserons jamais le peuple palestinien seul dans cette bataille. Et la bataille qui a commencé l'année dernière, c'est une bataille pour la libération de toute la Palestine, de la mer au Jourdain.
Aïe, Palestine!
Vive la Palestine! Tahia, tahia, Palestine! تحيا تحيا فلسطين
Je vais dire quelques mots au nom de l'Union juive française pour la paix, qui est une association juive antisioniste solidaire du peuple palestinien. Et je veux intervenir là par rapport au cessez-le-feu. Et je veux m'appuyer sur l'analyse que fait notre représentant à Gaza, qui s'appelle Abu Amir. Donc le cessez-le-feu, officiellement, il devrait commencer demain à 12h15. Et Abu Amir a écrit, cependant, malgré cette déclaration de cessez-le-feu, Israël a ciblé des civils palestiniens 5 minutes après sa proclamation, en s'attaquant directement aux équipes chargées de sécuriser l'aide alimentaire. Ce bombardement a causé 80 morts. Ce bombardement a suscité la colère de la population palestinienne et soulevé de nombreuses interrogations quant à la volonté réelle d'Israël. Par ailleurs, quand même, la bande de Gaza a connu des scènes de joie généralisées à l'annonce du cessez-le-feu. L'effervescence a gagné l'ensemble du territoire et des foules immenses sont descendues dans les rues pour célébrer ce qu'elles considèrent comme une première avancée vers le calme. Sur un autre plan, des informations relayées par les médias israéliens indiquent que le Hamas reprendra le contrôle de la bande de Gaza lors de la mise en œuvre de l'accord d'échange prévu, et ce, jusqu'à ce qu'un autre dispositif prenne le relais. Nous avons appris que dans les accords d'échange prévus, il y aurait 1000 prisonniers palestiniens qui seraient libérés, mais nous pouvons avoir des doutes sur ce que fera réellement Israël, et qui seront ces 1000 prisonniers. Et Israël a déjà annoncé qu'il ne libérerait que des prisonniers qui ont été prisonniers avant le 7 octobre 2023. Voilà. Par rapport aux perspectives de reconstruction de Gaza, il y a certes des pistes, mais qu'en sera-t-il réellement ? Par ailleurs aussi, l'autorité palestinienne veut qu'il y ait une autorité collaboratrice d'Israël, veut jouer un rôle. Bon, c'est pareil pour l'acheminement de l'aide matérielle au peuple palestinien. Il est prévu un acheminement comme ce qui avait cours précédemment par l'Égypte, avec tout un tralala contrôlé par Israël. Et ça, on ne peut pas l'admettre non plus. Alors, je veux terminer là en relayant ce qu'a dit Abu Amir. Plus largement, je considère les déclarations de l'ancien président américain Donald Trump sur la réalisation de la paix par la force au Moyen-Orient comme un signal d'une volonté d'élargir la normalisation avec Israël, comme les accords de Camp David avec l'Égypte et les accords avec la Jordanie. Et il conclut en disant, en définitive, la situation dans la bande de Gaza reste ouverte à de multiples scénarios et la poursuite de la trêve dépend en grande partie du respect par chacune des parties des dispositions de l'accord, ainsi que de la capacité à administrer le territoire de façon unifiée et cohérente. Malgré tout, l'espoir subsiste qu'un cessez-le-feu, même partiel, dans un premier temps, puisse mettre un terme à la souffrance à la souffrance humanitaire dans la région et ouvrir la voie à une situation globale et équitable pour l'ensemble de la question palestinienne. Mais nous savons pertinemment qu'il est nécessaire qu'il y ait une levée du blocus de Gaza. Il est nécessaire de satisfaire l'autodétermination du peuple palestinien. Il est nécessaire de poursuivre l'embargo militaire, de poursuivre la rupture de relations diplomatiques avec Israël, de poursuivre le boycott des investissements sanctions d'Israël, de poursuivre les mandats d'arrêt contre les auteurs israéliens de crimes contre l'humanité. Et il faut aussi, comme ça a été dit, se mobiliser contre les poursuites pour soi-disant apologie du terrorisme. Il faut aussi insister pour le maintien de l'UNRWA qui permet une subsistance du peuple palestinien. Voilà. Donc il faut qu'on continue comme avant de se mobiliser pour tous ces objectifs et il faut absolument ne rien lâcher à la lutte que nous avons commencée avant ces accords de paix.
Jusqu'à la victoire, aux côtés de la résistance du peuple palestinien, nous sommes là, nous sommes unis, nous sommes debout, malgré la répression, malgré la violence de la complicité du gouvernement français. Ce combat, c'est un combat qui exige qu'on continue à s'organiser. On passe d'un moment critique qui était celui d'un mouvement qui a débordé dans les rues de Paris et de toute la France. Ce mouvement, il s'organise. Ce mouvement, il exige qu'on soit toutes et tous, chacun à son poste, dans la suite de la bataille, pour exiger la fin de la complicité de la France avec le régime colonial sioniste. Est-ce qu'on va continuer à s'organiser, à se rassembler et à unir nos forces ?
Et vive la lutte ! Et vive la lutte ! Et vive la lutte !
D'écouter quelques extraits des prises de parole qui avaient eu lieu le jeudi 16 janvier dernier à Stalingrad lors du rassemblement contre la tenue du match Maccabi Tel Aviv Paris Basketball organisé par Urgence Palestine. Évidemment, ce rassemblement ayant lieu après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu, c'est notamment sur ce thème que sont revenus la plupart des intervenants. Avant de vous diffuser la prise de parole de Pierre Stamboul, nous nous devons de faire un rapide point d'information sur ce qui a pu se passer en Palestine depuis ce rassemblement. En effet, les attaques israéliennes avaient redoublé durant les derniers jours de la négociation d'un accord de cessez-le-feu. De nombreuses attaques avaient été rapportées, notamment dans les dernières heures, précédant l'annonce de cessez-feu, notamment à Khan Younis, dans la ville de Gaza, comme au nord. Le mercredi 15 janvier à 16h40 heure locale, Al Jazeera comptait au moins 59 Palestiniens et Palestiniennes depuis le matin par l'armée israélienne. Une heure plus tard, plusieurs sources affirmaient donc qu'un accord de cessez-feu avait été conclu et qu'il entrerait en vigueur le dimanche prochain, 19 janvier 2025 dernier. Alors que l'annonce se répandait que les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza se rassemblaient dans les rues pour exprimer leur soulagement et célébrer donc cette nouvelle, plusieurs frappes israéliennes ont été rapportées au cours de la soirée dans la ville de Gaza et qui ont tué même, notamment plus d'une vingtaine de personnes. Il y en a eu d'autres dans le camp des réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza aussi, tuant au total 29 personnes. En effet, les médias locaux rapportent donc des dizaines de frappes aériennes, y compris ciblant des zones désignées comme sûres. Au total, l'armée israélienne a assassiné 101 personnes depuis l'annonce du cessez-le-feu, dont au moins 27 enfants et 264 personnes ont été blessées. Les raids sont par ailleurs multipliés en Cisjordanie. Et la source de ces informations, c'est donc l'agence Média Palestine. On passe tout de suite à la diffusion de la prise de parole de Pierre Stamboul, porte-parole de l'Union juive française pour la paix. Bonne écoute.
Je vais peut-être commencer d'abord par présenter très brièvement l'UJFP moi-même. Donc l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, nous existons depuis 1994. Nous sommes une association juive antisioniste. Antisioniste parce que juif. Parce que pour nous, le sionisme, bien sûr, est une idéologie totalement criminelle contre les Palestiniens. On fait plus que le constater avec le génocide qui dure maintenant depuis 470 jours à Gaza. Mais le sionisme est aussi, pour nous juifs, une injure à notre mémoire, à notre histoire, à notre identité. Et c'est en plus, toujours d'un point de vue juif, une idéologie totalement criminelle. Je précise que j'ai... Alors moi, personnellement, je suis professeur à la retraite. Je suis issu d'une famille juive venue d'Europe orientale, des résistants communistes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ma famille maternelle a été totalement exterminée, sauf ma mère. Et mon père a été dans le camp d'Anoukian. Il a été le seul survivant des 67 arrêtés de novembre 1943. Et je précise, parce que ce sera un peu la fin de ma présentation, que j'étais deux fois à Gaza. On ne revient pas indemne de Gaza, puis on parlera un petit peu de Gaza, bien sûr, à la fin de la présentation. Alors, ce qui m'a décidé à écrire ce livre, c'est un sentiment de colère énorme, d'abord de colère. Comment un génocide d'une telle ampleur est possible en 2024, 2023, 2024, 2025 ? Comment l'écrasante majorité de nos élites politiques et médiatiques peuvent tomber là-dedans ? Et je compare cette situation à l'effondrement de la France en 1940, l'effondrement moral et politique. Et j'ai réalisé que derrière tout ça, il y avait une très très profonde méconnaissance de l'histoire de cette guerre. Je n'aime pas le mot conflit. C'est la guerre d'un État surarmé contre un peuple totalement désarmé et qu'il faut remonter à loin. Donc j'ai un peu choisi dans le livre de démonter un à un toute une série de mensonges fondateurs qui ont abouti au génocide actuel. Le premier que je vais prendre, c'est les colons en Cisjordanie disent « Cette terre est à nous, Dieu a donné cette terre au peuple juif, et nous sommes ici depuis des milliers d'années, et il y a eu autrefois la conquête de Canaan par Josué, le grand royaume unifié de Salomon et David, et nous reconstituons ce grand royaume. » Tout ceci ne tient absolument pas historiquement. La Bible hébraïque est un livre religieux, donc est à respecter comme livre religieux, ce n'est pas un livre d'histoire. Donc, les Hébreux ne sont pas arrivés de Mésopotamie, Abraham, désolé. Les Hébreux ne sont ni rentrés ni sortis d'Égypte, Moïse, toujours désolé. Il n'y a pas eu de conquête sanglante de Canaan, quelque part c'est heureux parce que le livre de Josué qui est devenu le livre de chevet des colons, tout ça, c'est pas d'histoire. Les Hébreux sont un peuple autochtone, ils ne se sont pas conquis eux-mêmes. Le grand royaume de David et Salomon, là aussi désolé, à l'époque présumée de David et Salomon, aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer, de peut-être 300-400 habitants. Et si David a existé, c'était un pasteur qui avait un troupeau un petit peu plus grand que les autres. Donc cette histoire, c'est normal, dans toutes les religions, il y a une histoire qui est racontée. Mais ce n'est pas l'histoire. En particulier, les Israéliens ont essayé à coup d'archéologie de démontrer l'historicité de la Bible, et les premiers archéologues européens là-bas ont essayé aussi de démontrer cette historicité. Il n'y a quasiment plus de débat historique. Tous les grands historiens disent cette histoire, c'est une légende, au même titre que l'Iliade et l'Odyssée, qui est un livre formidable, mais ce n'est pas l'histoire. Toujours un autre mythe que j'ai voulu démonter, les sionistes disent, en 70 après Jésus-Christ, l'empereur Titus, qui n'était pas encore empereur, prend la ville de Jérusalem, tout ça c'est totalement historique, détruit le temple, c'est tout à fait historique, la ville va être interdite aux juifs, et ils disent des centaines de milliers, des millions même, de juifs seraient partis dans tout le monde connu, en Méditerranée et au-delà, et nous serions leurs descendants. Vous voyez que pour tous les membres de l'UJFP que vous pouvez connaître, dont moi, malgré mes cheveux blancs, on n'a pas spécialement le type proche oriental. Et donc non, la réalité est têtue. Les juifs du monde entier aujourd'hui sont des descendants de convertis de différentes époques et de différentes régions. Pour les juifs du Maghreb, principalement des berbères convertis, et il y avait, quand les Arabes sont arrivés, un certain nombre de tribus berbères qui étaient des tribus juives. Pour les juifs d'Europe, dont je suis, puisque je viens d'Europe orientale, descendants probablement d'un mélange entre les juifs de la vallée du Rhin, qui étaient des anciens colons romains, et les juifs de l'Empire Khazar, qui était un empire qui était turc et slave et qui s'est converti au judaïsme entre le 8e et le 10e siècle après Jésus-Christ. Mais voilà, les juifs espagnols étaient des espagnols. On peut penser que dans la dernière partie de l'Empire romain, probablement 10% de la population était juive, mais c'était des égyptiens de religion juive, des espagnols de religion juive. Alexandrie était une ville entière juive, Philon d'Alexandrie, le grand philosophe, était juif. Mais voilà, ce n'est pas les descendants des Juliens de l'Antiquité. La religion s'était dispersée, mais pas la population. Donc dans l'idée, qui est l'idée centrale du sionisme, l'exil et le retour, cette idée est fausse. Il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas de retour, et les Juifs ne sont pas les descendants des Juliens de l'Antiquité, sauf exception, bien sûr. Alors c'est qui les descendants des Juliens de l'Antiquité? Ben, ce sont ceux qui n'ont pas vraiment bougé de la région. Ce sont les Palestiniens, qui d'ailleurs quelque part le savent. Vous avez un témoin de cette aventure-là, qui sont les Samaritains, autour de Naplouse et du mont Gerizim, et qui sont une dissidence du judaïsme du 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui sont toujours restés dans la région, qui sont palestiniens, qui sont de langue arabe. Et la population de Palestine a été tour à tour majoritairement, mais pas uniquement juive. Cette terre a toujours été une terre de mélange. Puis, après la destruction du temple, une majorité de la population s'est convertie au christianisme. Puis, à l'arrivée des Arabes au 7e siècle, une majorité de la population s'est convertie à l'islam sunnite. Vous aurez pendant plus de 1000 ans en Palestine environ 80% de musulmans de rite sunnite, 15% de chrétiens de différentes religions chrétiennes et 4 à 5% de juifs qui sont toujours restés dans la région et qui n'ont jamais rêvé à faire un État. Ce qui a caractérisé la population palestinienne, bien avant l'arrivée du sionisme, c'était la conscience d'être les gardiens des lieux saints, et donc une coexistence qui était relativement nécessaire, justement parce qu'ils étaient les gardiens des lieux saints des trois religions monothéistes. Autre chose que je veux démonter, le rôle de la religion juive. Aujourd'hui, on a une image apocalyptique avec le rabbin Corsia, qui vient d'expliquer qu'il fallait que les Israéliens finissent le travail à Gaza, ou avec, en Israël, les colons religieux, avec la mitraillette Uzi, qui tirent sur les Palestiniens, comme vous pouvez le voir dans plein de films, dans Rotterdam, par exemple. Pour vous sachiez que ça, ce n'est pas l'histoire de la religion juive. Je veux vous dire que ce n'est pas la religion juive qui a provoqué le colonialisme, c'est le colonialisme qui a transformé la religion juive en une religion native. Historiquement, la majorité des juifs, on peut dire jusqu'à la fin des années 60, sont non sionistes ou anti-sionistes pour une raison simple. La religion juive est une religion messianique. Les juifs ont été punis par Dieu. Donc tant que cette punition divine existe, ils n'ont pas le droit de retourner en Terre Sainte avant l'arrivée du Messie. Et donc, dans la religion telle qu'elle était majoritairement pratiquée, la langue hébraïque était réservée à la synagogue. Il y avait des langues juives qui étaient le ladino pour les juifs espagnols, le judéo-arabe au Maghreb ou au Yémen, qui était le yiddish en Europe orientale. L'hébreu, c'était à la synagogue. Le peuple élu, ça voulait dire celui qui avait plus de devoirs et pas celui qui avait plus de droits. Et l'an prochain, Jérusalem, ça voulait dire, nous pensons à Jérusalem comme les musulmans pensent à la Mecque, mais ça ne voulait pas dire, je vais à Jérusalem, j'y fais un État et j'expulse les autochtones. Donc les religieux, quand le sionisme va apparaître, les religieux seront contre. Il y aura une pétition quasiment unanime de tous les rabbins allemands contre ce qu'ils appelaient la folie sioniste. C'est à cause de ça que le congrès fondateur du sionisme aura lieu à Bâle et n'aura pas lieu à Munich, comme c'était prévu. Et dans toute la construction du futur État d'Israël, les religieux sont absents. Ils ne se battront pas en 1948, mais ils commenceront à participer au gouvernement parce qu'Israël a instauré la proportionnelle et que comme ils ont 8 à 10% des députés, tout le monde a besoin d'eux. Donc ils vont s'occuper, ils vont occuper le terrain pour s'occuper des écoles religieuses, des yeshivotes, des mariages, des enterrements. Ils ne jouent pas de rôle politique. Ce qui va totalement changer la situation de la religion, c'est le colonialisme. Déjà pendant le mandat britannique, le rabbin, le grand rabbin Abraham Cook de la Palestine mandataire, avait commencé à faire une synthèse entre religion et sionisme en disant que finalement, un État juif pouvait être un pas qui pouvait permettre l'arrivée du Messie. Et la conquête de 67 va tout changer. Du jour au lendemain, on voit des généraux parfaitement athées comme Moshe Dayan ou Yitzhak Rabin aller se prosterner au mur des Lamentations. Et brusquement, la religion va devenir une religion territorialiste. Jusque-là, on pouvait étudier la Torah ou commenter le Talmud n'importe où. Après 1967, il y a un État juif qui devient la centralité. Mais cette centralité dans la religion, c'est une invention du colonialisme. Et vous avez encore aujourd'hui quelques religieux juifs qui ont gardé la tradition antisioniste. Tout le monde pense au Nico Carthage, je penserai surtout à un grand intellectuel, Yaakov Rabkin, qui a écrit un très beau livre au nom de la Torah, l'opposition juive au sionisme. Et eux, ils ont gardé la position historique des religieux. L'UJFP a édité un livre qui s'appelle Antisionisme, une histoire juive. Peut-être certains d'entre vous l'ont vu ou l'ont lu. Et nous retraçons toute l'histoire de l'opposition juive au sionisme. Et il y a une importante opposition religieuse qui a été majoritaire, je vous dis, jusque dans les années 1960. Autre fausse idée qu'il faut enlever, c'est sur l'antisémitisme. On entend des pires conneries, et maintenant on entend tous les partis d'extrême droite expliquer que l'antisémitisme c'est la gauche, et qu'eux ils défendent les juifs, y compris Marine Le Pen. On a eu, il y a 9 ans, Benjamin Netanyahou au Congrès sioniste mondial qui a déclaré « Hitler ne voulait pas tuer les juifs, c'est le grand conflit de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée. » C'est l'idée, la haine des juifs, c'est pas l'Europe et les chrétiens, c'est les Arabes et les musulmans. Et on comprend bien le glissement, évidemment, dans lequel il essaie d'entraîner le monde entier. Donc il faut faire la part des choses. Moi, dans la haine des juifs, je vais distinguer trois périodes. L'anti-judaïsme chrétien, l'antisémitisme racial, et ce que Edgar Morin appelle aujourd'hui l'anti-israélisme, parce que ce sont trois périodes qui sont relativement différentes. L'anti-judaïsme chrétien, ben c'est simple. Le christianisme vient du judaïsme, c'est une dissidence du judaïsme. Les deux religions ont été en concurrence parce que le judaïsme était une religion prosélyte et qu'un certain nombre de citoyens de l'Empire romain étaient juifs. Quand les chrétiens prennent le pouvoir au IVe siècle, ils vont prendre toute une série de mesures contre leurs concurrents et donc contre les juifs. D'abord, on va les enfermer dans des quartiers spéciaux qu'on appellera plus tard en Espagne Juderia ou qu'on appellera ghetto, du nom d'un quartier de Venise en Europe. Ils vont interdire un certain nombre de métiers aux chrétiens, dont les plus importants, la possession de la terre. Ils vont décréter surtout que les juifs sont un peuple déicide, qu'ils veulent dominer le monde, qu'ils commettent des crimes rituels. Ils vont interdire aux chrétiens des métiers, l'usure et la banque, qu'on va donner aux juifs. Ne vous méprenez pas, c'était une toute petite minorité de juifs qui étaient banquiers ou usuriers, mais évidemment ça les rendait populaires. Et assez rapidement, pendant le premier millénaire, les expulsions commencent. Et à partir de la première croisade, commencent les massacres. Donc dans toute l'histoire de l'anti-judaïsme chrétien, vous avez des moments très douloureux. La première croisade qui, avant d'aller tuer les infidèles musulmans au Proche-Orient, va se faire la main sur la communauté juive de la vallée du Rhin. Vous avez un moment, Strasbourg, 3000 juifs qui sont brûlés à Strasbourg en 1348, accusés de propager la peste noire. Et puis l'Espagne, probablement 10% de la population était juive. Les massacres commencent en 1391, ça va durer un siècle. Et l'agonie du judaïsme espagnol va aboutir à de très nombreux morts, 250 000 juifs qui sont chassés, qui partiront vers le Maghreb et l'Empire ottoman, et de nombreuses conversions vers le christianisme, des conversions forcées. Et plusieurs siècles avant Hitler, les Espagnols vont inventer la limpieza de sangre, la pureté du sang, et vont persécuter les chrétiens d'origine juive. Dans les grands moments de l'anti-judaïsme chrétien, vous avez les Cosaques de Khmelnytsky, au XVIIe siècle, qui massacrent environ 150 000 juifs en Ukraine, et qui ont violé énormément de femmes, et probablement le très grand nombre de blonds parmi les juifs d'Europe de l'Est. Voilà. Qu'est-ce qui va faire la mutation au XIXe siècle de cet anti-judaïsme chrétien vers l'antisémitisme racial? C'est quelque chose qui concerne tout à fait le sionisme. La première chose, c'est l'émancipation. À partir du moment où les juifs, à partir de la France et de l'Allemagne, peuvent sortir du ghetto, ils deviennent une minorité invisible qui va alimenter tous les fantasmes. La deuxième raison, elle est que c'est une région, c'est une période où l'Europe domine le monde. Il n'est pas question de partager les richesses. Alors, les élites européennes, mais là-dessus, il y a une énorme culpabilité des médecins, des journalistes, des historiens, des linguistes, des anthropologues, qui vont inventer la notion de race. Les races, ça n'existe pas, il n'y a qu'une seule race humaine. Et évidemment, il va y avoir les races inférieures et les races supérieures. Les races inférieures, dans le monde dominé, ce seront les Noirs, les Arabes et les Indiens. Et dans le monde européen, ce sont les Juifs et les Tziganes. Les premiers théoriciens du racialisme sont français, Fachier de la Pouche, Gobineau, sont anglais, Chamberlain, ou sont allemands, Wilhelmar, et c'est Wilhelmar qui invente le terme antisémite. Le terme est impropre, il s'est imposé, donc on l'utilisera. Il est impropre parce que les Juifs ne sont pas des sémites, ils sont les descendants de convertis. Quand mes amis arabes me disent comment on peut m'accuser d'être antisémite alors je suis sémite, je leur dis pff. Vous savez, les Berbères ne sont pas sémites, les Égyptiens ne sont pas des sémites, le mot Palestine vient des Philistins qui étaient un peuple de la mer qui n'était pas du tout sémite. Donc vous enlevez cette classification qui est une classification de l'ennemi. Il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Et cette espèce de classification arien, sémite et tout, c'est le générateur du racisme et d'un racisme particulièrement meurtrier. Et c'est la troisième raison de l'antisémitisme racial. C'est l'écroulement progressif des trois grands empires européens, l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Dans l'Empire russe, vivait à l'époque 60% des juifs du monde entier, 6 millions au recensement de 1881. Et dans tous ces empires vont naître des nationalismes qui tous vont prôner l'État ethniquement pur, le modèle israélien. Donc il y aura des nationalistes polonais, tchèques, roumains, lituanien, que sais-je, tous veulent d'un État ethniquement pur. Et ça va causer évidemment de très grands nombres de guerres. Or, dans toute l'Europe, il y a une minorité qui brise cette volonté d'État ethniquement pur, c'est la minorité juive. Et donc, il y aura une espèce de consensus antisémite dans tous ces nationalismes. Il est incroyable que le sionisme a totalement copié sur ces nationalismes antisémites le modèle de l'État ethniquement pur. Vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza actuellement, si vous n'avez pas cette idée, elle est directement héritée des antisémites de l'époque. Je parlerai plus tard de l'anti-israélisme, parce que c'est quelque chose de totalement différent qui est rapporté à ce qui se passe depuis les dernières guerres que mène Israël. J'ai parlé du sionisme. D'abord, le sionisme, il naît dans la bourgeoisie austro-hongroise. Herzl était né à Budapest, il a prospéré à Vienne, et c'est un parti de la bourgeoisie, dès le départ. Herzl avait d'ailleurs le plus grand mépris pour les juifs d'Europe de l'Est, les Ostjuden, qu'il appelait des Juppen, c'est-à-dire qu'il partageait les préjugés antisémites de la bourgeoisie de l'époque. On dit souvent que le sionisme est une réponse à l'antisémitisme, certes, mais c'est la pire des réponses. C'est-à-dire que si on doit le définir au début, avant colonialisme, nationalisme et tout le reste, le sionisme, c'est une théorie de la séparation. C'est une théorie qui dit, il y a 130 ans, juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, ni dans le pays d'origine, ni dans l'État juif que nous allons construire. Et vous ne comprenez pas ce qui se passe à Gaza si vous n'avez pas cette idée qui est une idée fondatrice. nous ne pouvons pas vivre avec les autres. Le sionisme est un gigantesque roman national qui dit les juifs ont eu un grand royaume, ont vécu ensemble et ils ont été chassés de chez eux et grâce au sionisme ils rentrent chez eux. Tout ce roman national, je vous ai dit, il est fou. D'abord, il n'y a jamais de royaume unifié et nous ne sommes pas les descendants des Judéens de l'Antiquité. Les fondateurs du sionisme étaient agnostiques ou athées. Herzl était agnostique, Ben Gurion, Yitzhak Rabin étaient athées. Ils ont utilisé une Bible à laquelle ils ne croyaient pas, comme un livre de conquête coloniale. À la différence du colonialisme français ou britannique, colonialisme français, pour reprendre l'expression des colons, ils faisaient celui pour nous. C'est-à-dire qu'ils utilisaient l'indigène pour exploiter sa force de travail et pour piller le pays qui était colonisé. Le colonialisme sioniste ne fait pas celui pour nous. Dès le moment, c'est 1920, où ils vont théoriser totalement la notion d'un État juif pour les juifs, ce colonialisme-là est un colonialisme de remplacement qui vise à expulser le peuple autochtone et à le remplacer par de nouveaux immigrants. Cette notion-là n'est pas une notion récente, cette notion-là elle a plus d'un siècle. Et je vous montrerai comment elle a été appliquée dès le début du XXe siècle. Le sionisme se prétend un nationalisme, vous entendrez même des sionistes dire « nous sommes un mouvement de libération nationale ». Là aussi, c'est un drôle de nationalisme. C'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la langue et la terre. Peuple juif, c'est une notion religieuse. Mais si on entend par peuple l'unité de culture, de langue, d'origine, de coutume, prétendre qu'un juif polonais et un juif yéménite, c'est le même peuple, non, c'est une construction historique. La langue, je vous ai dit, il y avait des langues juives, mais ce n'était pas l'hébreu. L'hébreu, on a pris la langue religieuse pour la transformer en langue usuelle, mais c'est une construction. Les Irlandais ont essayé la même chose avec le gaélique, ça n'a pas vraiment marché. En Israël, ça a marché. Et la terre, pour les juifs religieux, il était interdit de retourner sur cette terre avant l'arrivée du Messie. Et pour les juifs laïcs, ils considéraient qu'il fallait se battre pour l'émancipation sur place. Quelquefois, quelque part à l'UJFP, on se veut être les héritiers d'une période où la grande majorité des juifs pensaient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par l'émancipation de l'humanité. Et donc, quand le sionisme va apparaître, il est extrêmement minoritaire chez les juifs. Il a contre lui les religieux, pour les raisons que j'ai expliquées. Il va avoir contre lui les révolutionnaires. Alors, il faut, nous, quelque part, on prône la grande mémoire du Bund, un parti révolutionnaire juif à l'époque de l'Empire russe. Il faut comprendre ce qui se passe à la fin du 19e siècle. L'antisémitisme est devenu une politique d'État dans l'État russe. L'Empire russe a organisé des pogroms. Mes deux grand-mères sont des survivantes du pogrom de Kishinev, qui était un des plus fameux. Et comme les religieux disent « nous sommes punis par Dieu, nous ne devons pas nous révolter, nous devons accepter la punition divine », il va y avoir un certain nombre de juifs qui vont rompre avec la religion et qui vont s'engager dans de nombreux partis révolutionnaires, progressistes. Et vous ne comprenez pas la révolution russe si vous n'avez pas dans l'idée qu'il y avait une minorité de la population, 4 à 5% de la population, qui savait lire et écrire parce que c'était le peuple du livre, qui n'avait pas droit à la terre, qui étaient des sous-prolétaires, des colporteurs, et qui ont été de grands artisans de la révolution russe, strictement rien à voir, vous voyez, avec la période actuelle. On dit souvent que le sionisme face à l'antisémitisme, c'était une solution. Vous devez comprendre que sionisme et antisémitisme avaient le même but au départ. Et du coup, Herzl était le grand ami de tous les antisémites de l'époque. Puisqu'on est français, Édouard Drumont, le chef des anti-dreyfusards au moment de l'affaire Dreyfus, il avait lu Guillaume d'Enstadt, le livre d'Herzl, et il dira « Ce monsieur fait notre bonheur en faisant le sien ». Évidemment, Herzl prenait le fait que les juifs quittent l'Europe. Quand Guillaume II, l'empereur d'Allemagne, qui fera une visite à Jérusalem, accompagné d'Herzl, apprend qu'il y a un congrès fondateur du sionisme qui est en route, il griffonne son ministre de l'Intérieur, ne faites aucun obstacle à quelqu'un qui veut nous débarrasser des Juifs. Et peu avant leur mort à tous les deux, en 1904, Herzl visite Pévé, le ministre du Tsar, organisateur des pogroms, Et nous sommes donc d'accord sur le fait que les Juifs européens, russes notamment, doivent quitter l'Europe et Pleyvé intercédera auprès de l'Empire ottoman pour favoriser l'immigration sioniste. Et puis parmi ces antisémites qui sont les amis des sionistes, ben, il y a les chrétiens sionistes qui sont d'une actualité brûlante. Vous savez bien que les élections aux États-Unis qui viennent de se dérouler sont une grande victoire de ce courant. D'où ça sort, ce courant? Il vient du XVIIe siècle. Quand le protestantisme apparaît en Angleterre, la Bible est traduite en anglais et les personnages de la Bible deviennent des personnages courants de tous les Britanniques et en particulier de ceux qui vont partir vers les nouvelles colonies, l'Amérique, donc États-Unis et Canada, et plus tard l'Australie ou l'Afrique du Sud. Et chez ces évangéliques va naître la théorie que les Juifs doivent retourner en Terre Sainte, chasser le mal, Armageddon, qui désigne le mal absolu dans la Bible, et Armageddon est clairement identifié aux Arabes, puis se convertir à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Et parmi ces chrétiens sionistes, alors aujourd'hui il y en a une centaine de millions aux États-Unis, ils font la pluie et le beau temps, ils ont une puissance financière énorme, et c'est eux qui ont financé l'essentiel de la colonisation de la Cisjordanie. Mais au début du XXe siècle, vous avez un chrétien sioniste célèbre, Arthur Balfour. Arthur Balfour était un antisémite profond. Il avait été Premier ministre en 1905 et il avait promulgué des lois anti-juifs contre les juifs qui venaient semer la révolution à Londres. Et Arthur Balfour, quelques années plus tard, en 1917, écrit une jolie lettre à Lord Rothschild, le financier du mouvement sioniste anglais, pour lui dire « on va vous donner la Palestine qui n'est pas encore conquise ». Est-ce qu'il y a une contradiction entre le Balfour antisémite et le Balfour sioniste? Non. Pour Balfour, comme pour les antisémites de l'époque, les Juifs étaient, je vais reprendre les mots d'Anna Arendt, des parias asiatiques inassimilables en Europe, et s'ils partaient là-bas, ils devenaient des colons européens en Asie. C'est cette traversée du miroir que le sionisme a permis. Autre idée que je veux déconstruire, on a souvent dans la tête, Israël, c'est une réparation du génocide nazi. Alors, il est sûr que 48 et déjà 45, le contexte international fait que la création de l'État d'Israël, avec le crime de guerre qui l'a accompagné, la Nakba, sera possible. Mais vous devez avoir dans la tête que les institutions sionistes qui ont expulsé le peuple palestinien de son propre pays ont été créés 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avant Auschwitz. Je donne des exemples. La banque coloniale juive, les noms ne s'inventent pas, 1898, c'est celle qui achète des terres aux féodaux absents pour expulser le métayer palestinien présent. Le KKL, Keren Kayemet Israël, le Fonds national juif, celui qui plante des arbres là où il y avait des villages palestiniens, il est créé en 1901. Si vous filez des ronds au KKL, c'est du guide d'impôt, pour le savoir, dans la France d'aujourd'hui. Et surtout, comme je suppose que dans cette salle, une majorité de gens se reconnaît plutôt dans des idées de gauche, vous devez savoir que ce qui a permis l'expulsion des Palestiniens, c'est un syndicat, la Histadrut, qui est fondée en 1920. L'article numéro 1 des statuts de la Histadrut, c'est la défense du travail juif. Vous voyez ce que ça voudrait dire si la CGT avait la défense du travail français comme article numéro 1 de ses statuts, ça fait un peu pétainiste. Et c'est la Histadrut qui va créer la compagnie des Corottes des Eaux, celle qui vole l'eau des Palestiniens en Cisjordanie, la compagnie Team de Navigation, celle qui exporte les produits des colonies, la compagnie Soleil Bonnet, celle qui a construit les colonies, la compagnie Eged des Bus, c'est elle qui a créé les caisses de sécurité sociale et les caisses de retraite. La Histadrut doit des centaines de millions de shekels aux travailleurs palestiniens qui ont été licenciés au moment de la première intifada. Et c'est la Histadrut qui va créer la Haganah, l'armée. Donc cette Haganah, cette milice sioniste qui est créée en 1921, elle aura 21 000 membres en 1939. Donc vous devez comprendre que des années avant la création officielle de l'État d'Israël, cet État avait un État, avait une armée, avait une police, avait des syndicats, avait été complètement organisé dans une société qui était complètement séparée. La première action que fait la Istanbul en 1921, c'est une grève générale, boycotter les magasins arabes, acheter juifs. C'était clair, c'était le modèle de la société séparée. On est il y a plus d'un siècle. Donc tout ce qui arrive après est à comprendre de ce côté-là. Comment les Palestiniens ont été petit à petit exclus? La Palestine était un pays très, très accueillant. Il y avait de nombreuses petites communautés qui s'étaient installées en Palestine et qui avaient été assimilées aux Palestiniens, des Tcherkesses, des Soudanais. Et puis c'était un pays, il y avait une minorité juive qui vivait là, en bonne intelligence avec les autres. Ils ont repéré assez vite que l'immigration sioniste était tout à fait différente des autres, qu'elle avait un seul but, c'était de les remplacer et de les expulser. Il y aura des premières révoltes en 1920, une beaucoup plus sérieuse en 1929, une guerre en 1936 où l'armée britannique, épaulée par la Haganah, va tuer 12 000 Palestiniens. Et voilà, la Palestine va se retrouver à la veille de la guerre de 1939, complètement désarmée, elle ne sera pas en situation de résister à un nettoyage ethnique programmé en 1948. Autre idée fausse que je veux enlever, souvent dans des discussions, j'entends « Ouais, Netanyahou, d'accord, mais bon, il y a des gens plus raisonnables, il y a le parti travailliste, le Rabin, etc. » Vous vous enlevez ça de la tête. Gauche chemise, ça n'existe pas. C'est comme gauche de l'apartheid, ça n'existe pas non plus. Et surtout, ce courant-là, il n'y a pas un seul crime contre les Palestiniens dans lequel il n'a pas joué un rôle majeur. Alors d'abord, pourquoi la gauche sioniste, avec toutes les guillemets qu'il faut y mettre, donc le courant social-démocrate, pourquoi il devient majoritaire dans le sionisme à partir de 1920? Pour une raison simple, pour des raisons démographiques, il était impossible de conquérir la Palestine individuellement. Il fallait un projet collectif avec des institutions collectives que les travaillistes ont, enfin c'est les ancêtres des travaillistes ont créés, le syndicat, l'armée, etc., les compagnies, les kibbutz. Pour tous ceux qui ont eu des illusions sur les kibbutz, et j'en fais partie, ben les kibbutz n'étaient pas des instruments de socialisme, c'était des instruments de conquête. Ils étaient interdits aux Palestiniens et on les a installés partout où il y avait énormément d'Arabes, hein, comme on disait jamais Palestiniens à l'époque, autour du désert, à la frontière de Gaza, etc. Et aujourd'hui, les kibbutz, assez logiquement, dans un état complètement devenu fasciste, ils sont cotés en bourse, ils ont privatisé les cantines collectives et l'activité agricole a été remplacée par la fabrication de munitions, de gilets pare-balles. Petite leçon, donc, le socialisme ethnique, ça ne peut pas marcher. Ce courant social-démocrate, il a commis de très très grands crimes. J'en cite quelques-uns. En 1933, il signe avec les nazis les accords de Havara, les accords de transfert, qui permettent à des juifs allemands fortunés d'émigrer en Palestine, mais en échange, les sionistes, d'une part, vont consommer des denrées allemandes qu'on trouvera jusqu'en 1939-40 en Palestine, et surtout, de fait, le blocus, le boycott que les juifs états-uniens avaient décrété contre Hitler va être rompu, et Hitler aura accès au marché du pétrole et au marché de l'acier. En 1942, on est en plein génocide nazi. Les sionistes organisent un congrès à Bitworth, aux États-Unis. On peut s'attendre à ce qu'ils mettent toutes leurs forces contre les nazis. La déclaration finale, c'est « Nous construirons un État juif sur l'ensemble de la Palestine ». Il n'y a plus de débat historique sur la Nakba 48. On sait maintenant que immédiatement les Palestiniens avaient dit « Nous avons été victimes d'un nettoyage ethnique prémédité ». Et Ben Gurion avait dit « Nous n'avons expulsé personne, les Arabes sont partis d'eux-mêmes. » Maintenant, en 88, quand les Israéliens ont ouvert leurs archives, tous les historiens israéliens ont confirmé ce que les historiens palestiniens avaient toujours dit, que d'une part, il y a eu de nombreux crimes de guerre, pas seulement des Yassine qui est fait par l'extrême droite, mais ton Toura qui est fait par la brigade Alexandroni, d'Itzhak Rabin, qu'ils ont nettoyé des villes entières. Il y a quand même eu, c'est moins Gaza aujourd'hui, Et le bilan pour les Palestiniens de la Nakba, c'est quand même 28 000 morts, hein, à ne jamais oublier, avec surtout les élites de chaque village qui étaient systématiquement visés et tués pour provoquer la panique et pour expulser tout le monde. Aujourd'hui, cette gauche-là a perdu le pouvoir. Comme on est dans une période de montée de l'extrême droite mondiale, je dirais que son rôle historique est terminé. Elle a fait tout son boulot, on n'a plus besoin d'elle. Elle a fait l'expulsion, elle a fait la guerre de 67, c'est elle qui a prémédité la conquête, c'est elle qui a initié la colonisation de 1967. On n'a plus besoin d'elle, les fascistes peuvent arriver puisque tout le sale boulot a été fait. Toute ressemblance avec la situation en France ne peut être bien sûr que fortuite. Aujourd'hui, alors qu'ils ont perdu le pouvoir, alors qu'ils sont marginalisés au niveau idéologique, cette gauche continue d'être criminelle. Le mur qui balafre la Cisjordanie, c'est Fouad Ben-Elizer, ancien secrétaire général du Parti travailliste, qui l'a fait construire. L'attaque contre le Liban en 2006, c'est Amir Peretz, ministre travailliste. Et aujourd'hui, parmi les criminels génocidaires qui sont pointés par la Cour internationale de justice, il y a Isaac Herzog, président de la République et issu du Parti travailliste. Et même Merav Michaeli, l'ancienne secrétaire du général du Parti travailliste, réputée féministe, moderne et tout, quand il y a eu les bombardements de 2021 à Gaza, elle a dit où qu'ils se trouvent, les membres du djihad islamique doivent être anéantis. Et elle a ajouté qu'on ne peut pas tolérer que la population israélienne soit assiégée. Je croyais naïvement que c'était les Gazaouis qui étaient assiégés, mais ce n'est pas son point de vue. Voilà pour la gauche. Tout ça, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est ce qui va aboutir à la dépossession des Palestiniens de leur propre pays. Il faut que je parle de l'épisode d'Oslo. Oslo aussi a créé, même dans le mouvement de solidarité en France, de gigantesques illusions. Au bout du compte, et on a rencontré des gens qui ont participé aux discussions, au bout du compte, qu'est-ce qui a été signé à Oslo? Une seule chose, ce qu'on appelle la coopération sécuritaire, l'obligation pour l'occupé d'assurer la sécurité de l'occupant. C'est ça que Rabin avait signé à ses partenaires. On a discuté d'un État palestinien, on n'a rien signé. On a discuté d'un arrêt de la colonisation. Non seulement on n'a rien signé, mais Rabin va installer 60 000 nouveaux colons entre la signature d'Oslo et son assassinat. On a discuté du retour des réfugiés palestiniens, on n'a rien signé. On a discuté de la libération des prisonniers, on n'a rien signé. Or, la question des prisonniers comme la question des réfugiés, ce sont les questions centrales en Palestine. 900 000 Palestiniens ont connu la prison depuis 1967. Et en ce qui concerne les réfugiés, bien évidemment, le peuple palestinien est un peuple de réfugiés. Il y avait 800 000 personnes qui ont été expulsées de façon délibérée en 1948. Leurs descendants sont 10 millions. 6 millions ont la carte de l'UNRWA. Imaginez une paix qui ne s'adresse pas aux réfugiés, c'est tout sauf une paix, puisque la question fondamentale de la Palestine, c'est la question du retour des réfugiés. Donc on comprend bien que la solution à deux États, qui était très vaguement imaginée au moment d'Oslo, mais qui n'a jamais été mise en application, était de toute façon une supercherie, parce qu'elle ne s'adressait pas au cœur du problème, qui était la question des réfugiés. Alors comme j'ai été long, je vais juste terminer sur Gaza. Gaza, on ne sort pas indemne, et vous pourrez interroger Sarah qui a vécu 2 ans à Gaza. Ce que je peux dire, c'est que Gaza était incroyablement diffamé. Comme toute la Palestine, c'est une société, je vais vous donner un peu les chiffres qu'on a eus en 2016, lors de notre dernier séjour. Il y a à Gaza, comme dans toute la Palestine, 1% d'illettrés. En Égypte voisine, il y en a 35%. Mais quand vous êtes arrêté par l'armée égyptienne, vous voyez tout de suite la différence. Gaza est une société incroyablement pluraliste. Tous les partis existent à Gaza. Nous avons rencontré, comme tous les gens, les dirigeants politiques, en tant qu'Union juive française pour la paix, de tous les partis politiques. Du Hamas, je ne sais pas s'il est encore vivant, c'était le président du Parlement. Du djihad islamique, je ne sais pas non plus s'il est encore vivant. la direction du FPLP, donc Marianne Aboudakar, qui a été chez moi à Marseille et qui était ici à Paris, enlevée de façon traîtreuse. On l'a rencontré à Gaza, on a rencontré le Fatah qui n'est pas illégal à Gaza, qui existe, on s'est rencontré et tout, on a rencontré tous les petits partis de gauche. À Gaza, vous, dans un taxi, vous rentrez, c'est vive le Hamas, non, abat le Hamas, ce sont des corrompus de la vie politique importante. Il y a une question éducative énorme, j'ai parlé de lire et écrire, mais il y a toute une série de d'associations petites et grandes qui assurent le préscolaire et le périscolaire, et après l'école, qu'il soit le lycée, qu'il soit de l'UNRWA, soit du gouvernement. Il y a l'université, c'est très cher, mais en 2016, il y avait 100 000 étudiants dans 6 universités, 21 000 diplômés chaque année. La majorité ne trouvant pas d'emploi. Une majorité des diplômés étant des femmes, par rapport, c'est certainement une société patriarcale, il n'empêche que la majorité des étudiants étaient des étudiantes, d'accord. Et ce qui caractérise Gaza, et c'est sans doute pour ça que la société n'a pas rompu avec le génocide actuel, c'est le sentiment collectif, le sentiment de solidarité, le fait par exemple que ceux qui ont des diplômes acceptent de travailler gratuitement pour que leur société ne s'écroule pas. Je vous donne un exemple qui nous avait brisé le cœur. On visitait l'hôpital Al-Shifa. Il y avait une seule psychologue salariée dans l'hôpital Al-Shifa. Et elle nous disait, je ne peux pas faire face, il y a 5 000 soignants, plus de 20 000 malades. Elle a pris sa page Facebook, elle a demandé des gens, des psychologues diplômés qui accepteraient de travailler gratuitement. Elle a eu 100 réponses, elle ne pouvait pas prendre 100 personnes. Donc elle a fait passer un examen écrit et oral, elle a pris des 26 layers, 23 femmes et 3 hommes, et qui ont des superbes uniformes qu'ils ont payés eux-mêmes, et quand on leur dit comment vous avez accepté de travailler gratuitement, ils nous disent premièrement, on ne peut pas laisser notre société s'écrouler, on a fait 5 ans d'études, on met notre savoir au service de la société, et deuxièmement, un jour le blocus s'arrêtera, on aura de l'expérience, on aura du travail. Gaza, c'est ça. Et si la société ne s'est pas écroulée, malgré les dizaines de milliers de morts et de blessés, malgré les souffrances infinies, c'est parce que ces structures de solidarité, elles n'ont pas disparu, elles ont tenu. Et voilà ce qui caractérise ce qui se passe à Gaza, je vais m'arrêter là. C'est évidemment un génocide. En tant que juif, je dis que nier le mot génocide, c'est aussi choquant que nier ce qui nous est arrivé à nous. C'est pas possible, parce que c'est clairement un génocide. C'est ahurissant que le monde occidental, non seulement les laissé faire, mais encouragé et armé et protège les meurtriers. Que quand ils disent les juifs, on arrête l'antijudaïsme et l'antisémitisme, c'était en Europe et les crimes ont été commis par des Européens. Faire payer ça aux Palestiniens qui n'ont pas le début d'une responsabilité là-dedans, c'est évidemment une ignominie de plus. Et de toute façon, l'idée de créer un État juif était une idée absurde. L'idée de la séparation est une idée absurde. Il n'y a pas d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Et pour nous, à l'UJFP, la solution à cette guerre, même si elle est complètement utopique, mais on n'en voit pas d'autre, c'est appliquer le droit international aux Palestiniens, c'est-à-dire la liberté, fin de l'occupation, fin de la colonisation, libération des prisonniers, destruction du mur, fin du blocus de Gaza, c'est-à-dire l'égalité des droits pour tous les habitants de la région, quelle que soit leur origine, leur identité ou leur non-identité, leur religion ou leur non-religion, et enfin la justice, le retour des réfugiés palestiniens et le jugement des criminels de guerre. C'est une utopie, mais j'arrive pas à croire une autre utopie.
Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire.
Radio Primitive.
L'alternative.
Run them jewels fast, run them, fuck the slow-mo.
Napaga!
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 Stitching crew.